Pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, cette semaine, Paris a accueilli durant 3 jours la 47e assemblée du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. L'occasion de célébrer les 30 ans de cet organe dont l'expertise scientifique fait autorité. Grâce à un travail de fourmi mené depuis 1988, le GIEC a permis d'imposer l'enjeu climatique sur la scène internationale en répondant à 2 questions cruciales. Oui, le climat de notre planète change rapidement et oui, les activités humaines sont responsables de ce changement. Alors comment fonctionne cet organisme qui réunit des milliers de scientifiques bénévoles? Quel est son rôle aujourd'hui et quelle est la place des chercheurs africains? Nous en parlons tout de suite avec nos invités dans ce studio installé pour l'occasion dans les locaux de l'UNESCO.
C'est pas du vent sur RFI.
Allons-nous donc vers un refroidissement? Ce n'est nullement évident, car il y a le gaz carbonique. Dans l'atmosphère, ce gaz retient la chaleur, comme une serre. Au train, où nous brûlons le pétrole et le charbon, le taux de gaz carbonique aura doublé dans l'atmosphère d'ici à la fin du siècle. Et à ce rythme, estiment les experts de l'OMM, le climat de la planète pourrait se réchauffer de 4 degrés au milieu du prochain siècle. Et alors, peut-être même, la calotte antarctique pourrait commencer à fondre. À moins que cet échauffement n'accroisse la masse des nuages et renforce en quelque sorte le parasol devant la chaleur du soleil. À moins que le soleil ne continue à se refroidir. À moins que la Terre n'en décide autrement. Car tout est là. Les scientifiques ne comprennent pas bien la physiologie du grand organisme planétaire et leur incertitude doit au moins nous conseiller la prudence.
À moins que les scientifiques fassent des progrès, cette archive date de 1978, 10 ans justement avant la création du GIEC par l'Organisation Météorologique Mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Bonjour Abdallah Moxit.
Bonjour.
Vous êtes marocain, vous êtes le secrétaire exécutif du GIEC depuis avril 2016. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle du GIEC ?
Le rôle du GIEC, effectivement, c'était l'idée d'établir une interface entre la science et la politique. Et c'est pour cela, depuis les années 1988, quand il y avait un peu de recherche sur le climat, comme ça a été dit dans le reportage, mais aussi il y avait les politiques de l'autre côté. Et bien entendu, le dialogue ne passait pas d'une façon très simple. Et à ce moment-là, les deux organisations, l'Organisation Météorologique Mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, ont décidé d'établir, de créer le GIEC avec un mandat simple. C'est évaluer la science existante sous forme de rapport et adresser des messages aux politiques. Et bien sûr, ils ont structuré ça d'une façon à produire des rapports presque pour chaque cycle. Il y a un groupe intergouvernemental qui dit intergouvernemental, c'est-à-dire composé de 195 pays. Il se réunit en plénière, il examine les travaux, mais ces travaux émanent des résultats de la recherche.
Alors le GIEC ne publie rien, en fait. Voilà. Le GIEC compile finalement les publications qui existent par des milliers de scientifiques bénévoles, il faut quand même le rappeler. Combien de scientifiques travaillent aujourd'hui pour le GIEC?
Je crois des centaines de milliers, parce que chaque papier scientifique à travers lequel on a des chercheurs qui ont travaillé sont déjà des participants. Par contre, les scientifiques qui sont sélectionnés, qui se penchent à ces papiers publiés, c'est eux qui font cette évaluation de cette science, sa crédibilité, et la convertissent en ce qu'on appelle des rapports d'évaluation qui ne sont que le miroir du niveau de l'avancée de la recherche, mais qui vont, à travers ce qu'on appelle des résumés pour les décideurs, simplifier le message scientifique pour qu'il soit à la portée des décideurs pour essayer un peu d'accompagner les négociations dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique.
Nous avons avec nous 2 autres membres du GIEC. Bonjour Youba Sokona.
Bonjour.
Vous êtes malien, conseiller spécial dans le domaine du développement durable pour le Centre Sud, une organisation intergouvernementale qui aide les pays du Sud à défendre leurs intérêts sur la scène internationale. Et vous êtes le vice-président du GIEC. Vous voulez y rajouter quelque chose?
Je voulais préciser lapsus, c'est que le GIEC publie. En revanche, le GIEC ne fait pas de recherche. Il y a toute une moisson de publications. Chaque rapport du GIEC constitue 5000 à 7000 pages. Donc le GIEC public. Et le GIEC est structuré actuellement en trois groupes de travail. Le groupe 1 travaille sur les aspects scientifiques, la science physique. Le groupe 2 sur les aspects de vulnérabilité, d'adaptation et d'impact. Le groupe 3 sur l'atténuation. Et il y a un groupe de travail spécial sur les questions d'inventaire. Et au-delà de cela, il y a certains rapports spéciaux sur des questions spécifiques.
Oui, on attend notamment pour le mois d'octobre là, la validation
du rapport 1.5.
1.5, alors voilà, tout de suite, on fait du jargon du rapport de ce que serait le monde si on limitait le réchauffement du climat de la planète à 1,5 degré.
1,5 par rapport à la fin du siècle, à l'horizon 2100, par rapport au niveau pré-industriel.
Voilà, ce qui est l'ambition de l'accord de Paris, mais ce qui aujourd'hui est loin d'être le cas quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre. Bonjour Noureddine Yassa.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Centre de développement des énergies renouvelables algérien et vice-président du groupe de travail numéro 1 du GIEC, donc un des groupes dont parlait Youba Sokona. Vous êtes vice-président de ce groupe depuis 2015. C'est le groupe le plus austère, j'ai envie de dire. Vous faites vraiment, vous condensez le travail de la science pure et dure.
Justement, je souhaiterais rajouter ce qui a été dit justement sur le mandat de GIEC. Donc le GIEC a un mandat d'évaluer l'état des connaissances scientifiques en relation, bien sûr, avec les fondements physiques de l'état de l'atmosphère, mais également tout ce qui est un peu impact, vulnérabilité et risque, et les solutions, bien sûr, pour atténuer les risques climatiques. Mais il fait une évaluation d'une manière critique. Donc, on fait pas un review des publications, mais on fait une évaluation critique d'état des connaissances avec toute transparence et objectivité pour justement transmettre donc d'une manière la plus pertinente possible aux décideurs les conclusions de ces rapports sans que ça soit prescriptif. Donc, c'est pas des ordonnances vers les politiques, mais c'est des rapports qui aident la prise de décision. Le groupe de travail 1, justement, c'est un groupe qui concerne un petit peu les bases scientifiques. Nous sommes en train de travailler, bien sûr, en collaboration avec le groupe 2 et le groupe 3, sur le rapport, la trajectoire donc de réchauffement 1,5 degrés Celsius. Mais nous travaillons également dans d'autres rapports spéciaux. Peut-être on va détailler ça par la suite.
Alors entend bien que c'est en tout cas une grosse machine, puisque ce sixième rapport est prévu pour 2022, je crois.
Oui, voilà. De 2021, donc il commence déjà la publication des rapports.
Et alors à vos côtés aussi, Jean-Paul Moati, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes président directeur général de l'IRD, l'Institut pour la Recherche et le Développement. Alors on vient d'entendre trois éminents chercheurs. Le GIEC fête ses 30 ans à Paris cette semaine. Vous avez suivi, alors vous êtes plutôt spécialisé dans la recherche médicale, mais comme vous êtes dirigeant de l'IRD, vous avez suivi évidemment les travaux du GIEC. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cet organisme très particulier ?
C'est clair que le GIEC est un modèle quasi unique au plan international parce qu'il rapproche une synthèse des connaissances scientifiques, comme ça vient d'être expliqué, qui est conduite en toute indépendance par la communauté scientifique, mais avec un lien direct et immédiat avec le processus politique multilatéral. C'est unique.
Ça ne veut pas dire. Il y a l'IPPES maintenant pour la biodiversité.
Oui, c'est un petit peu. Les deux autres conventions des Nations Unies, celle sur la désertification, celle sur la préservation de la biodiversité, essayent de se doter de mécanismes similaires. Mais dans les autres domaines, comme ceux que je connais, bien sûr, il y a un impact de la science sur les décisions. C'est comme ça qu'on a gagné le combat pour l'accès aux médicaments du sida, de la tuberculose et de la malaria. Mais ça se fait de façon beaucoup plus chaotique, moins organisée. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a 17 objectifs du développement durable. Le climat est un de ces 17 objectifs. Pour le climat, on a le GIEC, mais pour les 16 autres objectifs, on a pas de dispositif organisé au plan multilatéral pour faire un travail équivalent.
Moi, je crois une chose, que depuis, il y a tout ce qui vole en l'air, qui ont un peu détraqué un peu le temps.
C'est pas du vent,
le magazine de l'environnement sur RFI.
Oh, je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose de là-haut qui nous a un petit peu chamboulé.
Pour nous écrire...
Depuis, je crois qu'on a fait des expériences dans le cosmos. Là, je crois qu'il y a quelque chose de dérangé.
C'est pas du vent, @rfi.fr.
Bah, tout le monde nous dira que c'est un peu la bombe atomique, mais enfin, moi, j'y crois pas.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes installés à l'UNESCO qui a accueilli cette semaine la 47e session plénière du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat. Le GIEC, grâce auquel, rapport après rapport, une réelle prise de conscience s'est donc opérée. 2007 est une année marquante pour le GIEC puisque c'est cette année-là que le groupe d'experts a reçu avec Al Gore le prix Nobel de la paix.
Échange de congratulations entre ceux qui se partagent le Nobel de la paix 2007. Rajendra Pachauri, scientifique indien de renom, converse au téléphone avec Al Gore, ancien vice-président américain. Rajendra Pachauri préside le GIEC, un panel international d'experts qui étudie depuis 20 ans l'évolution du climat. Son dernier rapport, discuté par 500 scientifiques à Paris en janvier dernier, est un cri d'alarme.
Je pense que cela ne fera que renforcer notre sens des responsabilités et notre engagement pour la cause que nous défendons.
Des travaux scientifiques vulgarisés très largement par Al Gore, l'ancien vice-président américain a mis à profit sa notoriété, ses réseaux et son intérêt pour l'écologie. Il est mis en scène dans un documentaire intitulé « Une vérité qui dérange, succès mondial, récompensé par un Oscar ». À Oslo ce matin, le président du comité Nobel a expliqué pourquoi le GIEC et Al Gore se partagent le prix, autrement dit le lien entre paix et changement climatique.
Ils pourront avoir pour conséquence des migrations massives et mener à une concurrence renforcée pour le contrôle des ressources naturelles. Cela peut déboucher sur des risques accrus de voir éclater des conflits violents et des guerres civiles et entre les États.
Certains continuent à privilégier les mots plutôt que l'action. Ainsi, George Bush, à la tête d'un des pays les plus pollueurs, il a félicité Al Gore et a ajouté qu'il ne changerait rien à sa politique environnementale.
Ce prix Nobel a permis au GIEC d'être reconnu au niveau international, mais l'effet a été pervers finalement, car ce prix a créé une confusion un petit peu entre la politique et la science. Il a transformé, on pourrait dire presque, les scientifiques en militants. Du coup, durant les années qui ont suivi, notamment en 2009, hein, juste avant la conférence de Copenhague, on s'en rappelle, les climato-sceptiques ont multiplié les tentatives pour décrédibiliser le groupe. Est-ce que vous pensez, Yuba Sukona, que cette période est derrière vous désormais ?
Je crois qu'ils ne pouvaient que se mobiliser pour essayer de décrédibiliser le GIEC, parce qu'on ne peut pas décrédibiliser le GIEC. Chaque rapport du GIEC a été un marqueur important dans la politique et dans les négociations sur le climat. C'est la raison pour laquelle il y a une forte mobilisation d'essayer de décrédibiliser. Comme nous l'avons tantôt indiqué, le GIEC fait pas de la recherche, fait la compilation de l'état de recherche, de la recherche sur le climat. Et grâce au GIEC, il y a eu une prolifération de publications scientifiques sur les différents aspects du changement climatique. Non pas seulement sur les aspects purement physiques du climat, sur les aspects socio-économiques, sur le lien climat et santé, sur les aspects de migration, sur les aspects économiques. C'est-à-dire le champ d'intervention et d'action et de recherche sur ces différents aspects se sont démultipliés grâce au travail du GIEC. Pour juste donner un exemple, quand nous avons commencé les rapports d'évaluation dans les années 90, il y avait grosso modo entre 9000 et 10000 publications scientifiques sur les aspects liés au climat. Aujourd'hui, il y en a entre 200 et 300 000 publications sur les différentes questions du changement climatique. Ceci s'est développé à cause du GIEC.
Abdallah Moxid.
Oui, effectivement, l'aspect climato-sceptique, il a évolué depuis le temps. Parce que si on donne un historique des rapports du GIEC, quand on a commencé par le premier rapport en 90, on commençait. Comme a dit Yuba, il y a peu de publications. On disait qu'on commençait à maîtriser le climat. Le deuxième rapport suivant, on disait qu'on précisait davantage.
95.
Oui, 95. Le troisième rapport,
2001.
On introduisait des chiffres. Et le quatrième rapport, on a commencé à utiliser des pourcentages et des incertitudes plus précises. Et c'est là qu'ils ont le prix Nobel. Et le cinquième rapport, c'était on utilisait des mots comme inéluctable.
Ça, c'était en 2014.
Voilà, c'est ça. Et puis, même le cinquième, qui était capital pour l'accord de Paris, à ce moment-là...
2007,
oui. Unequivocal, en anglais. Et ça veut dire tout simplement que le nombre de climato-sceptiques a diminué d'une façon spectaculaire. Ce n'est pas uniquement ça, et ça en termes de précaution du GIEC lui-même. Parce que quand vous travaillez dans une chambre close, vous pouvez encourager les climato-sceptiques. Maintenant, après les deux derniers cycles, le GIEC s'est doté de procédures claires, comme la procédure qui gère les erreurs et la procédure du conflit d'intérêts. Et M. Ouba est le chair de ce comité qui gère les conflits d'intérêts. Et donc, en quelque sorte, on a montré à tout le monde qu'on travaille dans une salle avec des vitres de verre. C'est-à-dire, tout celui qui a besoin de critiquer n'importe quoi, il peut venir, il peut apporter ce qu'il a et on est capable d'interagir avec lui. Et vous avez vu d'une façon spectaculaire que le nombre de climato-sceptiques a totalement diminué de façon un peu inéluctable.
Jean-Paul Moiti.
Oui, c'est clair que le consensus sur le réchauffement climatique est probablement un des consensus scientifiques les plus robustes dans tous les domaines disciplinaires. Mais par contre, ce qui ne désarmera jamais, c'est que la science, en l'occurrence la science du climat, dérange des intérêts dominant.
Mais ce n'est
puissant.
Pas pour rien, par exemple, que Donald Trump
voilà,
a décidé
et moi, je reviens de la
retirer
Banque mondiale,
les financements.
Moi, je reviens de la Banque mondiale à Washington, où j'étais à un panel pour l'évaluation des ODD pour les Nations Unies. Et au même moment, on a croisé, rencontré des collègues américains. Aujourd'hui, l'administration américaine exerce une censure de plus en plus explicite sur les travaux de la science du climat. Par exemple, ils ont essayé de censurer un rapport récent d'une institution officielle américaine qui montrait, comme on l'a montré avec l'IRD et les collègues latino-américains pour les glaciers des Andes, que les glaciers du Montana ont tendance à fondre sous l'effet du réchauffement climatique. Ça ne plaît pas à l'administration américaine parce que ça gêne leur politique par ailleurs et évidemment, ils essayent de museler ces voix. On fait ça depuis Galilée.
Mais ça pose un vrai problème parce que les États-Unis financent quand même, je crois, je parle sous votre surveillance, Abdallah Moxit, mais c'est à peu près 40% du budget du GIEC, non ?
Ils finançaient.
Maintenant, vous avez une grosse incertitude.
Non, pas une grosse incertitude. Parfois, et dans le domaine des climate change et même dans le cas de financement, parfois il faut saisir un problème comme une opportunité. Climate change, on peut le dire, c'est climate change. Et exactement aussi le fait que les États-Unis, avec Trump, ils ont décidé de ne plus financer le GIEC. Et effectivement, ils finançaient les 46%. On s'est mobilisé. Et Yuba est co-chair d'une task force pour la mobilisation de ressources. Et puis, nous, on a profité de certaines réunions avec toutes les missions à Genève. Et chaque fois qu'on a une rencontre avec des pays ailleurs que Genève, on établit des réunions, on leur explique le risque financier. Finalement, et pas plus tard qu'aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères français a dit que le GIEC ne manquera pas d'un sou, même avec le recul des États-Unis. Les États-Unis, c'est-à-dire, ils n'ont pas payé les 2 millions. On a récupéré pour 2017 quelque chose de plus que 3 millions 300.
Yuba Sukuna.
Je crois que ce qu'on oublie, c'est de dire que l'indépendance du GIEC est primordiale et ce n'est pas lié au financement. L'indépendance du GIEC est liée à l'engagement des scientifiques qui travaillent dans le cadre du GIEC. Aucun scientifique n'est payé pour travailler dans le cadre du GIEC. Moi, je consacre quelque chose comme 200 à 300 jours de travail sur le GIEC, sur les aspects du GIEC. Je le fais en plus du travail que je fais. Ça, c'est important, on ne peut pas le chiffrer. Et l'indépendance du GIEC est cruciale et fondamentale, c'est ça qui fait la crédibilité du travail fait par le GIEC.
Alors reste que le financement et la formation des chercheurs sur les changements climatiques et leurs conséquences sont des sujets essentiels, notamment sur le continent africain. Nous en parlons juste après le flash d'info. À tout de suite.
Des questions, des réactions ? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.